les podcasts de Radio Vatican.
Le président chinois Xi Jinping continue à étendre son pouvoir au sein du Parti communiste chinois, dont les près de 1300 délégués sont actuellement réunis à Pékin jusqu'à mercredi pour leur congrès national qui se rassemble tous les 5 ans. Après un premier quinquennat marqué notamment par une importante croisade anticorruption qui lui a permis de neutraliser certains rivaux potentiels, Xi Jinping compte renforcer son pouvoir et éviter toute contestation interne. Les velléités réformistes ou libérales qui avaient émergé il y a quelques années au sein même de l'appareil d'État sont désormais marginalisées car Xi Jinping et ses proches n'ont pas oublié les circonstances de l'effondrement de l'URSS dans les années 80. C'est la raison pour laquelle Xi Jinping tente de tracer la voie d'un socialisme chinois spécifique qui permette de pérenniser le pouvoir du PCC au moins jusqu'en 2049, année du centenaire de la Chine populaire. François Bougon, ancien correspondant de l'AFP à Pékin, est l'auteur du livre « Dans la tête de Xi Jinping » paru aux éditions Actes Sud.
Xi Jinping, dans son discours du 19e congrès, a évoqué ce qu'il appelle une nouvelle ère pour le socialisme à caractéristique chinoise. Donc ça montre clairement que lui se situe dans la lignée à la fois de Mao et de Deng. Il y a eu 30 ans, en gros, de 49 à 79, qui était la période du maoïsme, même si Mao est mort un peu avant. En gros, cette période de la révolution, de la fidélité à la pensée Mao Zedong. Après, vous avez eu, sous l'égide de Deng Xiaoping, 30 ans de croissance économique, où là, on accepte d'introduire du capitalisme au sein du socialisme chinois. Et puis là, aujourd'hui, vous avez une nouvelle phase où la Chine est désormais numéro 2 sur l'économie mondiale et a la prétention à avoir une voix beaucoup plus forte sur la scène internationale. Donc c'est une sorte d'affirmation de cette grande puissance qui est aujourd'hui la Chine.
Donc il y a à la fois une forme de patriotisme ou nationalisme, en même temps il y a un déploiement international qui passe notamment par des grands projets comme cette fameuse nouvelle route de la soie qui implique des investissements énormes jusqu'en Pologne, je crois. Est-ce que à travers ces projets, la Chine devient une sorte d'hyperpuissance qui va imprimer sa marque sur la marche du monde comme les États-Unis l'ont fait dans la deuxième moitié du XXe siècle?
Alors moi, je ne suis pas du tout convaincu que la Chine essaie de remplacer les États-Unis comme puissance hégémonique. Officiellement, la Chine a plutôt une vocation à être, bien sûr, une grande puissance et à imposer sa voix sur la scène internationale. C'est ce que Xi a dit lors de son discours, lors de l'ouverture du 19e congrès, mercredi. Il l'a répété, la Chine est une grande puissance et il a tracé un objectif pour arriver à 2050. Mais je ne crois pas que la volonté de la Chine est d'assurer une hégémonie à la place des États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que dans son environnement régional, en Asie-Pacifique, la Chine a envie d'être le numéro un et elle n'a pas du tout envie de voir le rival américain contrecarrer ses ambitions, notamment maritimes, par exemple en mer de Chine méridionale. Donc là, c'est plutôt dans cet environnement régional immédiat qu'on pourrait voir des frictions, des tensions avec les États-Unis.
Alors évidemment, un des dossiers chauds dans l'environnement régional dont vous parlez, c'est la Corée du Nord. Quelle est la nature de la connaissance de Xi Jinping sur le régime nord-coréen? Est-ce qu'il y a des personnalités au sein de l'entourage de Kim Jong-un avec qui il a des contacts?
Selon les experts, c'était l'oncle de Kim Jong-un qui était le canal de communication préféré entre Pékin et Pyongyang. Mais il a été accusé de corruption et il a été éliminé par son neveu. Donc aujourd'hui, apparemment, ce canal de communication n'existe plus. Ce qu'on peut souligner en tout cas, c'est que Kim Jong-un ne s'est pas rendu en Chine. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation plutôt distante. Donc c'est un allié pour l'instant. La Corée du Nord est plutôt un allié encombrant parce que vous avez une pression assez forte des États-Unis pour que Pékin résolve la crise nucléaire nord-coréenne. Et vous avez du côté de Pékin la constatation que de toute façon, votre marge de manœuvre est plutôt étroite.
Et si on se situe sur la question des États-Unis et de l'Europe, quelle est la vision que Xi Jinping a de l'Occident? On sait qu'il cite notamment beaucoup de grands auteurs quand il voyage. Il flatte un peu ses interlocuteurs en montrant une certaine culture littéraire. Mais quelle est sa vision concrète de l'Occident? Est-ce qu'il considère que c'est une région du monde en déclin ou au contraire un partenaire avec qui établir une relation dynamique et équilibrée?
Côté européen, c'est un des grands partenaires commerciaux. Donc c'est un partenaire qu'il faut choyer de par les intérêts croisés. Après, d'un point de vue purement stratégique, mais c'est pas simplement Xi Jinping, c'est que la Chine, tous les dirigeants chinois ont compris à quel point l'Europe n'était pas unie. Donc il y a cette capacité à diviser pour mieux régner. Donc vous avez par exemple une présence beaucoup plus forte en Grèce, une présence économique qui permet d'utiliser la Grèce quand il le faut, par exemple, pour éviter d'être condamné dans certaines instances. Et par ailleurs, sur la vision, puisque vous parlez d'Occident, en fait, il y a quand même aussi une vision menaçante de l'Occident pour Xi Jinping, qui considère que les valeurs universelles qui viennent de l'Occident sont une menace pour le Parti communiste. Et ça, vous le retrouvez dans un certain nombre de textes et de discours.
On a senti, à la suite du printemps de Pékin, notamment en 1989, qu'il y avait une sorte de panique existentielle qui saisissait les cadres du parti, en référence évidemment à ce qui se passait aussi en Union soviétique et en Europe de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, l'assise du parti, en tout cas dans les mentalités, est assurée pour les décennies à venir, ou est-ce qu'il y a encore cette question existentielle qui se pose aujourd'hui ?
La question se pose dans le discours idéologique de Xi Jinping. Le modèle à ne pas suivre, en tout cas le cauchemar pour Xi Jinping, c'est l'Union soviétique de la fin des années 80. C'est l'implosion de l'Union soviétique, c'est la débandade du Parti communiste de l'Union soviétique. Il y a un certain nombre de discours faits devant les cadres du parti pour dire à cette époque, personne ne s'est levé pour défendre le parti. Donc c'est un exemple qui est étudié avec attention à Pékin. Il y a eu des textes, il y a eu des documentaires, et donc c'est clairement un contre-exemple. Le Parti communiste chinois ne va pas effectuer une glasnost, ne va pas effectuer de perestroïka. Il est hors de question de laisser l'armée prendre son indépendance par rapport au parti. Il est hors de question de laisser la société civile prendre ses aides. Il est hors de question de permettre à des ONG financées par les Occidentaux d'avoir pignon sur rue à Pékin.
Un entretien réalisé par Cyprien Viette.